Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
L'actualité judiciaire ce matin puisque vous recevez le procureur de la République.
Oui, Yves Dupas, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur un certain nombre de dossiers qui intéressent la justice en ce moment. On va revenir évidemment sur la gestion judiciaire de la crise insurrectionnelle. Avant cela, un mot peut-être sur cette affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours et ce drame de violence conjugale à Yété où une femme a été tuée par son mari. L'enquête est en cours, les faits sont établis relativement clairs aujourd'hui.
Alors dans cette affaire qui est un drame familial de nouveau dans le secteur de Yaté, l'auteur présumé a été déféré au parquet avant-hier. Une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre par conjoint. L'auteur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet à la demande du magistrat instructeur. C'est une nouvelle affaire de dispute conjugale sur fond d'alcool qui tourne mal, avec un auteur présumé qui a reconnu avoir porté un coup de couteau qui a effectivement touché l'artère fémorale de la victime.
On a l'habitude de dire qu'avec la libération de la parole, il y a quelques années déjà, ce genre de fait est de plus en plus connu. Alors ça ne va pas forcément jusqu'à la disparition d'une personne, mais ce sont des faits très graves. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a de plus en plus de procédures liées aux violences conjugales.
Alors les violences conjugales restent...
Ou intrafamiliales.
Oui, d'une manière générale. Les violences intrafamiliales, dont conjugales, effectivement restent un axe de politique pénale majeure. C'est une problématique très prégnante encore. Alors, ces procédures s'étaient un peu réduites pendant les événements sous le double effet du couvre-feu et des restrictions de vente d'alcool. Mais on le voit bien, en tout cas, au regard de notre activité depuis les dernières semaines, ces procédures, effectivement, se retrouvent, j'allais dire, dans un cours tristement normal, dans l'activité du parquet, avec cette alcoolisation qui vient caractériser 80% de nos procédures. 80%, c'est énorme. Alors nous avons bien évidemment, au-delà de la réactivité nécessaire dans la conduite de l'enquête, nous avons développé des outils, vous le savez, pour prévenir ce type de fait, prévenir la récidive, avec des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, en partenariat avec la province sud et le service du relais. Et puis nous avons ouvert le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales en décembre, donc piloté par l'ARAVIF. Et actuellement, nous avons trois auteurs présumés qui sont placés dans ce centre sous contrôle judiciaire. Vous voyez, des outils effectivement se développent au fil des années dans la ligne des actions du Grenelle, mais il est impératif que sur ce territoire, ces violences insupportables se réduisent. C'est nécessaire vraiment, et j'appelle vraiment la vigilance, de tous, dans l'entreprise, dans la tribu, dans la famille. Il faut impérativement contribuer à la lutte contre ces violences intrafamiliales.
Monsieur le procureur, un mot sur ce centre dédié aux auteurs de violences conjugales qui a ouvert au mois de décembre. Qu'est-ce qui est proposé aux personnes qui sont placées dans ce centre ? Parce que c'est un placement, vous l'avez dit, il y a un accompagnement judiciaire, mais il y a aussi un parcours qui leur est proposé.
Alors au-delà, effectivement, de la fixation de la résidence de la personne placée sous contrôle judiciaire, donc dans ce foyer, c'est tout un parcours, une prise en charge pluridisciplinaire qui est proposée. Un suivi en addictologie, des éclairages et un appui effectivement sur le plan psychologique pour prévenir ce type de comportement.
Monsieur le procureur, donc l'autre volet de votre activité qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance, c'est la gestion judiciaire de la crise insurrectionnelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des comparutions liées aux émeutes ou aux événements qui sont déroulés en mai et juin ?
Alors nous avons aujourd'hui traité une grande partie de ces procédures. Quelques chiffres tout à fait réactualisés d'hier. Les événements depuis le 13 mai, c'est 2530 gardes à vue. C'est 502 personnes déférées. C'est 243 personnes incarcérées. Hein. 30 informations judiciaires ouvertes, soit pour des procédures criminelles, soit pour des procédures délictuelles complexes. C'est 650 convocations en justice. Hein. C'est donc effectivement des décisions et des réponses pénales conséquentes. C'est aussi un peu plus de 520 mesures alternatives pour les faits les moins graves. Et puis, le parquet a fait son travail d'analyse juridique de ces procédures. Hein, et nous sommes à 600 décisions de classement sans suite, soit parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, soit que finalement les auteurs ne sont pas identifiés. Donc, vous voyez, un gros travail, mais la justice s'est adaptée, s'est mobilisée pour traiter dès les premiers événements donc ces procédures. Il nous reste un certain nombre de procédures, notamment en matière de vol, de recel de vol, hein, que nous continuons à traiter pour que chacun réponde de ses actes hein, dans une stratégie clairement définie au parquet.
Et puis il y a l'enquête concernant les éventuels responsables hein, de cette crise insurrectionnelle. Où est-ce qu'elle en est ? Parce qu'on entend régulièrement des choses. Est-ce que les choses avancent ? Est-ce que les auditions se poursuivent, notamment en métropole ?
Le travail d'information se poursuit hein, sous l'autorité des deux magistrats instructeurs. Hein, les investigations se poursuivent. Hein. Je ne vais pas vous en dire davantage à cette heure.
L'instruction peut durer encore plusieurs mois ?
C'est un lourd travail d'enquête, hein, ce dossier. Hein, il faut en être conscient.
Alors, et peut-être que ma question va vous surprendre, monsieur le procureur, mais dans les affaires que vous avez à gérer, est-ce que vous avez constaté que des gérants de société avaient à répondre devant la justice parce qu'ils avaient mis le feu à leur entreprise ? On a entendu malheureusement les propos d'une élue hein, lançant des accusations, en tout cas des suppositions de ce genre de faits. Est-ce que vous avez été saisi de ce genre de comportement ?
Alors, le parquet n'a été saisi d'aucune procédure. Concernant un gérant de société qui aurait volontairement détruit son outil de travail. Donc aucun élément, effectivement, venant à l'appui de ces déclarations. Donc ces déclarations, effectivement, sont totalement inexactes. Hein. Mettre en cause des gérants de société, effectivement, de la sorte, c'est assez indigne. Le milieu économique est suffisamment marqué par les événements, hein, par cette crise insurrectionnelle. Hein, on a des gérants de sociétés qui ont été particulièrement atteints, d'abord par rapport à leurs activités, l'existence d'entrepôts, hein, plus de 700 ont brûlé, on le sait, avec effectivement une activité qui a été réduite à néant, des salariés en grande difficulté avec leurs gérants, avec leurs patrons. Donc non, c'est en fait ces propos relèvent de cette désinformation hein, qui aura quand même marqué le cours de cette crise insurrectionnelle.
Qui n'est pas complètement. Enfin voilà, on sait bien que c'est souvent ce genre de poussée de fièvre, entre guillemets, souvent accompagné d'éléments de désinformation.
On a des insinuations, parfois mensongères. Rappelez-vous, lorsque nous étions déjà à 7 morts, un certain nombre de personnes relayaient sur les réseaux sociaux les 89 morts. Du fait de l'action des milices ou des forces de l'ordre. Bon, moi, j'ai toujours veillé à préciser dans quelles circonstances, effectivement, les décès de ces 14 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 14 personnes hein, décédées, dont deux gendarmes. Comment ces décès sont survenus, dans quelles circonstances, comment, effectivement, les enquêtes étaient orientées. Donc voilà, c'est ce volet de communication hein, qui est très important, bien évidemment, dans la gestion d'une crise aussi grave qu'a connue la Nouvelle-Calédonie. Donc non, je n'ai pas connaissance d'action de la part de gérants de société, effectivement, tirant contre leur camp à ce point. Donc voilà, il faut rétablir La vérité, je tiens quand même à souligner que cette désinformation, elle a pu peser aussi et alimenter des provocations, une agressivité renforcée hein, du côté des émeutiers, et c'est assez insupportable.
Mais est-ce que les auteurs de ces propos et de ces propos de désinformation pourraient éventuellement être poursuivis ?
Alors, il y a toujours bien évidemment la place pour l'infraction de diffamation, hein, effectivement, par rapport à certains propos qui peuvent être tenus. Rappelez-vous, lorsqu'une élue avait soutenu que les forces de l'ordre tiraient sur les barrages en direction des enfants, moi j'avais été amené à recadrer ce type de situation et ce type de propos.
On en est maintenant, dans quelques jours, ça fera 8 mois hein, que le 13 mai est arrivé en Nouvelle-Calédonie. C'est un long moment, c'est aussi un court moment. La justice a travaillé. Quel est aujourd'hui, 8 mois après les faits, votre sentiment ? Parce que j'imagine que vous regardez aussi tout ce qui s'est passé maintenant avec un peu de recul aussi. Quel est votre sentiment par rapport à cette crise insurrectionnelle ?
Alors avec le recul, plusieurs choses, hein, plusieurs points à souligner. D'abord, les personnels de justice peuvent être fiers de leur action. Hein. J'y inclus les avocats, j'y inclus l'ensemble des partenaires institutionnels, hein, puisque l'on a traité toutes les procédures découlant de ces crises avec objectivité, avec impartialité et avec la volonté de tendre vers la manifestation de la vérité, y compris pour des faits particulièrement sensibles. Deuxièmement, je pense que cette crise insurrectionnelle, c'était bien évidemment une forme de putsch sur un plan politique hein, qui était mené par ces dirigeants de la CCAT. La guerre civile a été évitée, vraiment. Moi, je tiens à le dire parce qu'il y a eu une conjonction hein, entre les actions de rétablissement de l'ordre par les forces de l'ordre, l'action de la justice, cette conjonction, cette cohésion dans les missions régaliennes. Je pense, à un moment donné, on rassurait les Calédoniens, les citoyens qui se posaient beaucoup de questions sur leur sécurité. Hein. Ils ont d'ailleurs vécu et constaté que la sécurité, c'est sans doute l'une des premières des libertés. Et donc, cette guerre civile a pu être évitée parce qu'il y a eu beaucoup de résilience. Résilience de la part d'un certain nombre de citoyens. Et ont cru en l'État, en la justice aussi, hein, je tiens à le préciser. Et c'est, me semble-t-il, l'un des enseignements importants de cette crise. La résilience des Mondoriens ou des gens d'Yaté, malgré effectivement le blocage de cette route provinciale numéro 1. Donc finalement, de la sagesse, finalement de la raison. Et c'était le meilleur choix, je pense, pour la Nouvelle-Calédonie.
Vous avez employé des mots forts, hein, putsch et guerre civile sont des mots forts. Vous avez acquis cette conviction que finalement, ça relaie l'idée que tout ça a été préparé, organisé et mis en musique.
C'est le cœur de notre hypothèse hein, privilégiée hein, dans ce dossier.
Parce que vous avez des éléments qui le montrent.
Dans ce dossier central visant les commanditaires présumés. Alors ces personnes sont présumées innocentes hein, à ce stade. Mais bien évidemment, c'est tout le travail d'enquête qui est en cours visant à finalement comprendre ces formes d'action très violentes menées de manière concomitante sur des objectifs ciblés. Oui, un plan préparé, déployé, coordonné. Mais en tout cas, maintenant, ce qui compte, c'est que la solution à cette crise soit d'abord politique.
Une toute dernière question, monsieur le procureur. Cette crise insurrectionnelle et ses conséquences a occupé la justice hein, depuis 8 mois avec beaucoup d'intensité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de retrouver un fonctionnement un peu plus normal et finalement un rythme de travail qui correspond plus à la réalité de la délinquance ou de la justice en Calédonie ?
Ces 4 mois et demi de crise insurrectionnelle, c'était une situation hors norme hein, pour nous, hein, pour la justice, pour notre organisation, notre fonctionnement. On a bénéficié des renforts des officiers de police judiciaire, des renforts de magistrats fonctionnaires, fort heureusement. Hein, mais bien évidemment, la justice ne pourrait pas fonctionner de manière continue trop longtemps par rapport à ce type d'événement particulièrement grave où la sécurité publique est fortement mise en cause, mise en jeu. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, oui, nous retrouvons un cours normal. Déjà, avec, par exemple, avec ces violences intrafamiliales qui émergent de nouveau. Donc, c'est maintenant un retour, j'allais dire, un peu plus aux axes de travail courants.
Monsieur le procureur Yves Dupas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.